VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En Centrafrique, le dépouillement du vote au référendum sur la réforme de la Constitution est en cours après 2 jours de scrutin. Les opérations de vote ayant été prolongées pour cause de violence à Bangui notamment. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Tatiana Mosso.
Jusqu'à lundi, il y avait encore des opérations de vote dans au moins 4 centres à Bangui. En province, les villes de Ndélé, Bossangoa, Kagabandoro ou encore Bria ont été en mesure de voter. À noter qu'aucune opération ne s'est tenue à Benzambé, dans le fief de Bozizé, dans le centre du pays. Au Tchad et au Cameroun, les centrafricains de la diaspora ont également pu voter, et ce 24 heures après le jour officiel du scrutin. Malgré les violences et les difficultés techniques, la majorité des votes ont bien eu lieu dimanche. Le soir même, des premiers dépouillements avaient commencé. L'ANE, l'autorité nationale des élections, doit faire de premières estimations sur le taux de participation au vote, sans avoir pour autant précisé de date pour les résultats. Des résultats qui sont attendus dans un délai d'au moins 1 semaine, un délai court qui devrait servir de repère pour le très attendu scrutin présidentiel du 27 décembre prochain. Environ 2 millions d'électeurs sont Africains seront une nouvelle fois appelés aux urnes. Tatiana Mosso, Bangui, VOA Afrique.
Lutte contre Boko Haram, les autorités camerounaises exhortent les populations du nord du pays à s'enrôler dans les milices d'autodéfense. Et en collaboration avec les forces de sécurité, ces groupes ont remporté déjà quelques succès, interceptant et tuant par exemple 2 jeunes filles kamikazes cette semaine près de la frontière. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka présenté par Lionel Gaïma.
Boubakari Alioune vit à Amchide, localité à cheval sur la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Il y a 2 ans, des militants de Boko Haram y ont tué 30 personnes, dont le père d'Alioune, ce qui a poussé ce jeune commerçant à se joindre à une milice d'autodéfense.
Il y a une équipe qui travaille en journée, c'est-à-dire à des zones, dans les zones montagneuses, comme le Mohamed Benagara, et puis une autre équipe qui prend la relève la nuit. Généralement, à distance, ils essayent de repérer. Ils se rendent compte que les gars qui avancent ont des explosifs. Ils utilisent leur flèche de frappement, c'est comme ça. Mais dans les villages aussi, ils font des patrouilles pour voir les étrangers.
La secte islamiste nigériane a commencé ses incursions dans l'extrême nord du Cameroun vers la fin 2014. Depuis, elle a étendu ses attaques au Tchad et au Niger voisin. Au Cameroun, les militants s'en prennent aux civils, pillant et incendiant des villages. Ils plantent aussi des mines antipersonnelles et envoient leurs kamikazes attaquer les marchés et autres lieux publics. Mamoudou Hadji, leader communautaire d'Amchide, chargé de recruter des jeunes, assure qu'ils ont fait l'objet d'un triage rigoureux par crainte d'une infiltration de partisans de Boko Haram.
Bon, ils sont d'abord sélectionnés en fonction des qualités des personnes. On ne prend pas n'importe qui. C'est des gens de bonne foi qui ont un souci pour le village et pour le pays. Et c'est des gens qui sont restés au village, qui n'ont pas voyagé, et qui sont bon compte de leur moralité, quoi. Comme ce qui s'est passé à Mokolo. Un policier avait laissé, voulait laisser un Boko Haram passer. Le comité des dirigeants a dit non, si on doit fuir la personne, on a fui, on a trouvé que le policier était son copie.
Après une brève formation par l'armée, les jeunes ont commencé des patrouilles. Enthousiastes, ils veulent en faire plus et demandent des motos et des vivres pour pouvoir étendre leurs opérations sur les collines à la frontière entre les deux pays. Le gouvernement camerounais a prévu de fonds dans son budget 2016 pour appuyer les milices d'autodéfense, a affirmé le gouverneur de la région de l'extrême nord, Mijiawa Bakari. Il s'est toutefois refusé à fournir des détails.
J'ai saisi cette occasion pour saluer l'action ô combien brave composé des membres du comité de vigilance qui ont été mis sur pied, ce qu'ils ont fait et à saluer. Nous avons longuement sensibilisé les uns et les autres à l'effet d'apporter leur contribution à cette lutte. Cette partition a été entendue, elle est en train d'être jouée correctement. Les populations ont intégré cette donne. Donc nous demandons aux uns et aux autres de se mettre au pas. Donc le renseignement a une place très très importante. La dénonciation également.
La mission des milices d'autodéfense de l'extrême nord camerounais est des plus dangereuses. Selon le gouverneur Mijiawa Bakari, 10 de jeunes enrôlés ont péri dans des opérations cette année.
Crise burundaise maintenant, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein, est très alarmé par la détérioration de la situation au Burundi et pense que les tensions ont atteint un point de rupture à Bujumbura. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Genève un porte-parole de l'ONU. Près de 90 personnes ont été tuées vendredi dernier après les attaques contre 3 camps militaires dans la région de Bujumbura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, l'hôtel Radisson Blu de Bamako a rouvert ses portes aujourd'hui. Rappelons que l'attaque du 20 novembre contre cet établissement par des djihadistes a fait 21 morts, une opération revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique et son allié Al-Mourabitoun. Au Bénin, il y a quelques jours, contre toute attente, le président Yahi Boni portait son choix sur le Premier ministre Lionel Zinzou comme candidat unique de la coalition au pouvoir. Le chef du gouvernement est donc le seul porte-étendard désigné pour défendre aux élections présidentielles du 28 février l'héritage politique du président Yahi Boni. Mais Lionel Zinsou ne semble pas faire l'unanimité au sein de la mouvance présidentielle. Alors que certains essaient de convaincre les militants à la base de la nécessité de ce choix, d'autres le désapprouvent. Les précisions de Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Le premier ministre Lionel Zinsou, choisi comme candidat unique des fausses couries pour un Bénin émergent, reste un géant tous coincé dans la gorge des partisans du chef de l'État. Mais plus encore, dans le rang des populations, on se dit fatigué de ces hommes venus de nulle part qui prennent le pouvoir et qui, par la suite, ne parviennent pas à bouger les choses pour avoir reçu une éducation autre que celle en face d'eux. En tout cas, c'est l'avis du citoyen dans la rue qui pense, à tort ou à raison, que ce choix a été imposé par la France.
Lionel Zinsou ne me plaît pas, moi. On ne le connaît pas.
Si le choix ne tenait qu'à moi, je pense quand même que ce choix-là n'est pas un choix qui convient au Bénois. Il faut quelqu'un qui connaît le pays, qui a vécu nos réalités, qui connaît bien ce qui se passe dans le pays. Je pense suffisamment que ça, là, ce n'est pas adéquat. On va toujours retomber dans les mêmes erreurs.
Lionel Zinsou est pour moi une pilule qu'on impose au peuple béninois et qui est difficile à avaler.
Mais le débat quittera très tôt la rue pour s'incruster au sein de la famille politique de Thomas Boniaï. Trois des membres fondateurs et pas des moindres des fausses couries pour un Bénin émergent feront une sortie médiatique qualifiant le choix opéré par leur leader de nul et de non avenu. Pour eux, choisir Lionel Zinsou serait une injure portée à tous les alliés des premières heures des deux mandats de Yahi Boni.
Aucun des candidats à la candidature FCBE n'a d'ailleurs jusqu'alors élevé publiquement la moindre protestation pour dénoncer cette chose-là. Leur attitude est de nature à crédibiliser la thèse qui a tort estime qu'il n'y a pas de militant FCBE valable et capable de succéder au président Yahi Boni pour aller jusqu'à importer puis d'imposer un halogène qui a le mérite de ne remplir aucun des critères définis par la pseudo-commission de candidature.
Nous sommes dans un état de droit. Les tribunaux seront saisis. La Cour constitutionnelle va connaître du dossier.
Mais si vous êtes à votre place, comment allez-vous réagir? À moins que vous soyez des veaux, vous allez réagir en disant attention, le principe des textes n'est pas respecté.
Le consensus a du mal à se faire autour du dauphin de Yahi Boni. Lionel Zinsou est criblé de tous les reproches. Par exemple, certains Béninois ne comprennent pas comment un homme qui désire diriger le Bénin choisit pour ses sorties médiatiques rien que des chaînes étrangères. Les jours à venir seront déterminants. Peut-être que d'autres ténors, des fausses couries pour un Bénin émergent, sortiront de leur silence pour approuver ou désapprouver cette candidature qui fait couler actuellement au Bénin assez d'encre et de salive. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Pour terminer, la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce s'est ouverte à Nairobi, au Kenya, une réunion perçue comme la rencontre de la dernière chance pour sauver le cycle de Doha dans l'impasse depuis 14 ans. Idriss Fall.
La conférence de l'OMC qui se tient jusqu'à vendredi est une première sur le continent africain. Les représentants de 162 pays membres restent profondément divisés. Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC, a même admis fin novembre qu'aucun progrès n'a été enregistré dans les discussions préparatoires. Le pessimisme était de mise à l'ouverture. Cecilia Malmström, commissaire européenne chargée du commerce mondial, a estimé que la réunion de Nairobi est vitale pour l'avenir de l'OMC. À Bali, en 2013, les ministres étaient arrivés in extremis à un accord douanier pour relancer le commerce mondial. Deux ans après, ils se retrouvent dans la capitale kényane pour tenter de sortir de l'impasse, le cycle de Doha, lancé en 2001 au Qatar. Les ministres devront également plancher sur le sujet controversé des subventions agricoles et de l'accès au marché pour les pays les moins avancés. Hôte de la conférence, le président Uhuru Kenyatta a estimé que ces subventions faussent le commerce, de même qu'elles nuisent à l'agriculture et à l'industrie africaine.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.